Division de Columbia et ses stations affiliées sont fiers de vous présenter Carnet de guerre, une émission en direct du front de la guerre, avec Lucien Aymon.
I have to tell you now, this country is at war with Germany.
Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
It was just about 7 o'clock last Thursday night, and my sister whispered the lady next door, and they saw some planes flying high in the sky. And she said, "They're flying high." And the lady said to her, "Yes, they are, but they're all right." Next minute, she said, "Look, something's dropping from them." Next minute, we heard two big bangs. My auntie, who had just left the house with her three children, was standing out in the street. I dived under the shelter, but before I could get to the shelter, two bombs had already dropped and blew me. My auntie screamed, and she said that our front door was blown down, and she screamed for help because she had three children.
As honest as hate!
Et déjà, les hommes s'entraînent qui seront prêts à fournir les renforts nécessaires lorsque la grande offensive nous conduira à la victoire finale. À côté de son armée à l'entraînement et de son industrie au travail, la nation entière fait sa part tous les jours avec un patriotisme et un zèle admirable. Ainsi, le citoyen canadien se prive d'articles de luxe, automobile, frigidaire, primeur et même bas de soie. Il supprime les voyages aux États-Unis. Il renonce aux promenades en auto et retranche de sa table le bacon et le fromage.
Les dirigeants de l'Allemagne ont annoncé la reddition des forces armées sans condition. Le Canada accueille avec enthousiasme la fin de la guerre. Mon nom est Lucien Aymon et au nom de CKRL, vive la paix!
Le général Eisenhower, commandant suprême, généralissime de nos armées victorieuses, a fait ses adieux aux correspondants de guerre alliés. À l'une des conférences de presse les plus considérables jamais tenues, de sa façon engageante, simple, modeste, mais aussi de façon directe, il a jeté beaucoup de lumière sur les événements des trois dernières années. Il a été clair, franc dans ses réponses, il a touché à peu près tous les sujets. Il nous a donné ses réactions personnelles aux événements passés et présents. En somme, il a exprimé les idées d'un bel esprit, de l'esprit d'un grand homme de guerre, d'un grand chef.
La guerre est finie, c'est officiel. Le Japon se soumet à toutes les exigences des alliés. Ne quittez pas l'écoute. Nous vous donnerons bientôt d'autres renseignements.
Pendant que Claironnet encore de par le monde les hymnes nationaux des différents pays alliés, l'équipe de reportage de Radio-Canada à Québec prenait place à bord d'un taxi avec son équipement d'enregistrement sur fil afin de tâcher de recueillir ici et là, dans différents endroits de la ville et de la banlieue, les impressions des gens que nous allions rencontrer.
À peine quelques minutes après l'annonce officielle, nous étions déjà rue Saint-Jean. À travers le bruit du trafic, nous entendons ici et là des fenêtres ouvertes, des bribes de nouvelles complémentaires que fournit actuellement la radio. Nous avons filé sur la grande allée, nous sommes descendus le chemin Belvédère pour prendre la pente douce et nous diriger dans la partie basse de la ville. Ici, au pied de la pente douce, se trouve la gare de remise des tramways du Québec Power. J'ai pensé arrêter la voiture, je suis entré ici, je faufile entre une lignée de tramways. Certains ouvriers sont allés réparer. Le premier que je rencontre, vous êtes monsieur?
Hébert.
Monsieur Hébert, vous occupez de réparation ici?
Oui.
Maintenant, est-ce que vous êtes au courant de la grande nouvelle, à savoir que le Japon a été vaincu, c'est officiel?
Non.
Vous ne le saviez pas?
Non.
Vous êtes en devoir depuis quelle heure?
5 heures.
Depuis 5 heures. Alors, je vous annonce la nouvelle. J'imagine que ça vous fait plaisir de savoir que le Japon est définitivement vaincu. Quelles sont vos réactions?
Bien, je vais vous dire, ça nous touche profondément parce que ça fait longtemps qu'on attendait la fin de la guerre. J'ai beaucoup de parents de l'autre côté.
Ah, vous aviez des parents en outre-mer?
Ils sont allés en Europe. Et ensuite, il y en a plusieurs qui sont signés pour le Japon.
Alors, tout le monde partage votre joie ce soir, M. Hébert. Je vous remercie de vos impressions. Je vous laisse à votre travail.
Alors, il arrive qu'il y a à peu près une heure, la fin de la guerre a été annoncée officiellement. La guerre est finie, tout le monde est content, je pense, hein? Nous vous parlons en ce moment de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Nous sommes au coin de la rue Drummond et Sainte-Catherine. Les automobiles passent dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Les gens circulent, tout le monde, tous les gens se parlent. Il n'est pas nécessaire ce soir d'avoir des présentations officielles pour congratuler les gens sur le grand événement que nous venons d'apprendre il y a à peu près une heure. Nous allons tenter d'obtenir ici et là, si nous trouvons suffisamment de gens qui parlent français dans l'ouest de la rue Sainte-Catherine, nous allons tenter, dis-je, de vous apporter ici les réactions des Montréalais à ce grand événement. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui parle français? Je crois que tout le monde veut parler ici dans le micro. Comment vous appelez-vous, mon garçon?
Non,
vous avez quel âge?
14 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la fin de la guerre?
Ah, je suis content parce que mon frère est mort pour la guerre.
Votre frère est mort pour la guerre?
Oui.
Alors, vous êtes content que ce soit fini, tout ça?
Ah oui.
Vous parlez français, mademoiselle?
Ah oui.
Qu'est-ce que vous allez nous dire au sujet de la fin de la guerre?
Ah, je suis bien content parce que ma chérie va revenir.
Votre petite amie va revenir. Bravo, mademoiselle. Oui. Je suis content, moi aussi. Je suis content pour tout le monde.
Mon garçon, mon oncle Léo, il reste à la guerre.
Oh, bravo, mademoiselle. La guerre est finie. J'espère que c'est la fin de toutes les guerres. Bonjour, monsieur. Quelles sont vos réactions à vous?
Comme tous les autres, nous réjouissons énormément.
Oui.
Nous sommes heureux pour tous ceux qui ont des fils, enfin, des parents dans le Pacifique. Alors, réellement, c'est un grand jour pour nous tous.
C'est la fin d'un grand cauchemar.
Absolument, M. Baudet.
Ici, mes chers auditeurs, il y a vraiment beaucoup de monde. On se croirait, non pas en plein midi, mais on se croirait dans un véritable jour de congé. La célébration de ce soir, rue Sainte-Catherine, qui est toute spontanée, rappelle, à s'y méprendre, la célébration début mai de l'année de cette année, au moment où l'armistice a été annoncé officiellement avec l'Allemagne. Ici se termine le petit reportage que nous vous avons offert de la rue Sainte-Catherine à Montréal. La pluie commence à tomber, mais les gens ne manifestent pas encore le désir de rentrer chez eux. La nouvelle est trop grande, ils ont l'intention de la célébrer jusqu'au bout. Et je crois qu'ici se termine notre reportage. Nous vous retournons maintenant à nos studios.
Filez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats, flottez-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Boucle blonde, les gars, mettez fixatifs, et corps gras, n'épargnez ni ongles, ni phares, venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser.
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais. On va danser.
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser.
Le charpentier dit volontiers, rien de niveau sur ma planète, mais ça reste un métier honnête. Tu pourrais faire un charpentier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des charpentiers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le jardinier dit volontiers, il a fait beau d'un jour de pluie, ça c'est un métier pour la vie. Tu pourrais faire un jardinier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des jardiniers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le savant dit, si vous saviez mon ignorance, le métier de la connaissance est mal connu et journalier. Mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des journaliers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le prisonnier dit volontiers, faire du temps parlant de l'ombre, mais en voulant sortir du nombre, tu pourrais faire un prisonnier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des prisonniers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le chant chansonnier dit volontiers, j'aurais aimé être poète. Or pour si peu qu'il le souhaite, chacun peut faire un chansonnier. Mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des romanciers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le brigadier dit volontiers, il faut être prêt pour la guerre, il faut des armes pour la faire. Reprends en cœur le financier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un bon métier d'aller casser des sabliers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Du dernier robot à deux pieds jusqu'aux distinctions les plus hautes, du brancardier au cosmonaute, la mort se prend pour un métier. Car le destin d'un militaire, c'est de devenir son fusil, de devenir son propre outil. C'est le plus triste sur la terre, le destin des militaires qui s'en vont au pas du et des soldats.
Et oui, vous l'avez bien entendu, à CKRL 89.1, en votre compagnie Lucien Aymon, lors de l'émission Carnet de guerre, c'est aujourd'hui qu'a été déclarée la fin des hostilités avec le Japon. C'est donc la fin de la guerre. Mais vous pouvez entendre, nous qui sommes situés en plein cœur de Berlin, encore quelques restes de la 3e armée en train de se débattre. Mais les hostilités prendront fin bientôt, nous l'espérons tous. Nous venons d'entendre Gilles Vigneault qui faisait la pièce « Les beaux métiers ». Juste avant, Serge Gainsbourg, Nazi Rock, et des extraits comme ça de Québec et de Montréal pour célébrer. C'était évidemment notre collaborateur Hubert Aubert qui prenait comme ça des en direct des extraits de la foule en liesse à Montréal et à Québec. Alors aujourd'hui, nous célébrons l'armistice. Allons écouter maintenant encore plus de témoignages et de commentaires sur cette grande journée. Vive la paix, vive le Canada et vive le monde.
Radio Diffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la Résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adresse à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout. Tous au combat.
We'll be right back. Il y a des gens qui prétendent que nos militaires ne sont pas intelligents, ils ne sont pas brillants, mais c'est absolument faux. D'ailleurs, ce soir, nous avons l'honneur et le privilège d'en interroger un, plein de verve et de vitalité. Chantal! Votre carrière à vous, est-ce de l'atavisme? Écoutez, là, deux choses d'une, comprenez-moi bien, là. Ou bien est-ce de l'atavisme, ou bien est-ce une disposition personnelle fondamentale?
Oui.
Écoutez, monsieur le militaire, est-ce que vous vous êtes déjà battu?
Ah oui! Durant la guerre de 39, je me suis battu. Mais j'ai été obligé d'y aller pareil.
Alors, en mon nom personnel et au nom de tout le monde ici ce soir, j'aimerais moi-même vous féliciter. Ah! Mais que c'est ça?
Ah, ben, je suis un vétéran, moi. Je vis au crochet de la société.
Mais comment c'est arrivé, ça?
J'ai eu la main sélectionnée. Je m'apprêtais à lancer une grenade et puis il y a un gars qui m'a demandé l'heure.
On dit, monsieur le militaire, que dans l'armée, il y a beaucoup de camaraderie. Est-ce que vous avez des copains dans l'armée, vous?
Ah oui! J'ai mon ami Georges. On l'appelait Malfait.
Malfait?
Son uniforme, il faisait bien.
En fait, votre carrière, ça a commencé comment?
Ben, j'ai coulé mes examens dans la police. Ça fait que là, j'ai pensé à l'armée.
Le premier poste dans l'armée, c'était où, exactement?
Dans un sous-marin.
Un sous-marin.
Mais ça n'a pas marché.
Ah non?
Je dormais à la fenêtre ouverte.
À part le petit incident de tantôt, le petit doigt croche gris qu'on a vu, là, est-ce que vous avez été blessé ailleurs?
Ah oui, monsieur!
Où ça?
J'ai été blessé aux Dardanelles.
Oh! Ça, ça fait mal, ça.
Depuis ce temps-là que je chante soprano. Oui, un de nos hommes, c'est bien pire. Il a fait du son front. La tête arrête juste au ras des yeux, là.
Il y a les yeux, là, puis...
Plus rien.
Plus rien.
Mais ça paraît pas.
Ah non?
Juste quand il enlève sa casquette de général. Il est un petit peu connu. Colonel Sévigné.
Ben oui, Colonel Sévigné. Il veut se présenter chef de l'Union nationale.
Ben, c'est un héros.
C'est vrai.
Il a perdu une jambe durant la guerre.
C'est vrai.
En essayant de se sauver. Et puis moi-même, j'ai été décoré. J'ai sauvé 11 000 hommes de mon bataillon.
Ah oui?
J'ai tué le cuisinier. Colonel Sanders. Comme un petit poulet.
Écoutez,
vous l'avez, mon petit chandail?
Je le trouve pas mal beau, oui.
Je l'ai fait au crochet.
Vous avez été à Montréal, vous et certains de vos confrères, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Est-ce que vous trouvez que les Montréalais ont été gentils, sympathiques à votre égard?
Oh non! Il y a un vieux civilien, là. Je l'ai assommé avec ma carabine. Je pensais qu'il y a de moi. Il était plié en deux.
Il n'y a pas de vous.
Non, sa cravate était prise dans sa fly.
Est-ce que c'est difficile d'entrer dans l'armée?
Ah oui, monsieur! Oui. C'est très difficile. J'ai étudié toute la nuit, moi, juste pour passer mon test d'urine.
D'ailleurs, dans l'armée, est-ce qu'on insiste beaucoup sur l'hygiène?
Oui, l'hygiène, le sport, le corps humain, monsieur, c'est comme un appartement pour tenir sa place. Moi, j'ai une femme qui vient toutes les semaines.
D'ailleurs, je vous regarde faire vos petites tapettes depuis tantôt. Vous avez l'air d'un homme en forme. Vous, qu'est-ce que vous mangez le matin, vous?
Des céréales.
C'est pour ça que vous avez les épaules carrées?
Mangez bois de vin.
Et comment vous faites pour dire autant de bêtises dans une seule journée?
Je me lève de bonne heure.
Écoutez, j'ai une question très importante maintenant à vous poser, monsieur le militaire. Quels sont, d'après vous, les trois plus grands hommes militaires canadiens français?
Le premier, c'est Napoléon.
Napoléon.
Le deuxième, c'est Jules César.
Jules César.
Le troisième, c'est moi.
Mais voyons donc, Jules César, Napoléon, c'est pas des Canadiens français, ça.
En viage, je suis le premier.
Alors, nous venons d'entendre le groupe de comédiens Les Cyniques qui saluaient ainsi le travail de nos vaillants soldats avec leur façon bien personnelle. Et juste avant, c'était le meilleur orchestre du monde, le Glenn Miller Orchestra, qui interprétait une version instrumentale de Those Were the Days. C'est actuellement l'émission Carnet de guerre. Nous sommes heureux, Lucien et Mon. Et toute l'équipe est heureuse de vous annoncer la fin des hostilités. C'est la fin de la guerre. Et nous avons reçu divers communiqués. Par exemple, l'annonce de la fin des hostilités a été accueillie avec enthousiasme par le cardinal Bonenfant. Entre deux cérémonies, il a appelé à la réconciliation avec l'Allemagne et le Japon. Il a aussi appelé les fidèles à la prière. Et le premier ministre Maurice Duplessis a quant à lui tenu à féliciter les Québécois pour leur participation enthousiaste à l'effort de guerre. Nous célébrons aujourd'hui la fin de la guerre. C'est l'émission Carnet de guerre et nous allons entendre une pièce de Bo Diddley. Ain't it good to be free? Célébrons ensemble et pourquoi ne pas communiquer votre enthousiasme en m'appelant au 640-1586.
Follow the leader. People trained to follow blindly wherever their leaders led them. People who are led into waging a war so disgusting, revolting, so obscene, that it turned the stomach of the entire civilized world. What do we do with the Japanese people when the military leaders they followed are gone? They can still make trouble. Or they can make sense. We have decided to make sure they make sense. And that job starts here. Our problems in the brain inside of the Japanese head. There are 70 million of these in Japan. Physically no different than any other brains in the world. Actually all made of exactly the same stuff as ours. These brains, like our brains, can do good things or bad things, all depending on the kind of ideas that are put inside. A brain that thought in the modern way could be taught to use the latest modern weapons. A brain that also thought in the ancient way could be hopped up to fight with fanatical fury. If these men could hop it up, then the sky would be the limit to the things that they could do. They'd gain power, glory, and a great new worldwide empire that they could control as their own if they were smart enough to do tricks with the Japanese brain. They were smart enough. They did it in a very roundabout way. Through religion. Shinto, just one of several Japanese religions. An old religion, out of date, harmless. It had once been the official religion of Japan, but now a tired religion just lingering along with its dim, hazy, almost forgotten gods. A perfect setup for the warlords to move in on. This was the place they would use to hop up the Japanese brain. This religion would become the mouthpiece for the military gang. They made Shinto the official religion again. They took Shinto over. They made it a place where the people had to listen. They filled up the Shinto religion with hokum and used it to sell the Japanese people war. Sell the people ancient nightmares. Sell the people ancient hatred. Play up the bloody fairy tales and pagan superstitions. Up from Japan's murky past, bring back the mumbo jumbo. The glory of the samurai knights of old. Tell them that the soldiers of yesterday are the Japanese gods of today. Tell them that a Japanese warrior never dies. Play up the myth of the goddess of the sun, and over and over and over again, keep on telling them and telling them and telling them just this. The sun goddess created the Japanese to rule all the other people of the earth. Tell them not to figure it out. Just tell them the sun goddess wants them to believe it. This is her family. Her family of warrior gods. All one sacred family created to rule the whole world. Created to rule the whole world. Make him bow. Make him say it. Make her bow. Make her say it. Make them bow. Make them say it. Everybody bow. Everybody say it. Created to rule the whole world. When they've bowed enough, when they've said it enough, when they've heard it enough, they'll begin to believe it.
Tell it to the school kids. Tell it to the bank clerks. Tell it to the farmers. Then start to drill the school kids. Drill the bank clerks. Drill the farmers. Tell them that they too are like the ancient samurai. Warriors of today, they will be the gods of tomorrow.
La musique nègre et le jazzot sont les jeux de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend et vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 zé. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing. Dadou, dadou, c'est gentil comme tout. Afin de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la Traviata en ré majeur. Il m'a d'abord interrogé, est-ce que vous êtes ténor léger? Pas chantant ou bariton, j'ai répondu, ah mais non. Je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 zé. Je suis swing, ah, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me viser. Quand je chante un petit refrain, j'épouvante la concierge et les voisins. Moi, je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, je suis heureux comme tout. J'ai pour maîtresse Béatrice, je suis le père de son enfant. Avec Simone, j'ai eu deux fils en un rien de temps. Le mois dernier, avec Zouzou, j'ai eu quatre enfants d'un seul coup. C'est pas que je le fasse expressement, qu'est-ce que vous voulez? Je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 zé. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou que ça peut me briser. Un rythme l'a révélé, c'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Moi, je suis swing, zazou, 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 je m'amuse comme un fou.
C'est KRL 89.1. Rue d'Auteuil, animé par Michel Dubois, les vendredis 20h.
Cette soirée vous est présentée par La Barberie.
La Barberie. Wow. Brasserie coopérative de travail aime son milieu. Elle est fière de soutenir l'économie sociale, les projets communautaires et les radios locales. Elle est aussi fière de vous accueillir dans son salon de dégustation où un choix de 17 bières à la pompe vous attend. La Barberie, c'est aussi des bières en bouteille, au goût riche et au son unique. Que vous soyez seul, en couple ou entre amis. La Barberie, 310 Saint-Roch ou à labarberie.com.
En devenant membre de CKRL durant notre campagne de pré-membership, nous vous offrons la chance de participer au tirage d'un certificat de 300$ de Sillon Disquaire. Le tirage aura lieu à 11h lors de notre journée de lancement à laquelle nous vous convions, le dimanche 12 septembre, sur la 3e avenue face à CKRL. Être membre de CKRL pour 25$, c'est soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone, soutenir la relève artistique de toutes les scènes. Et il y a trois façons d'adhérer. Remplir le coupon et nous le retourner par la poste, nous contacter par téléphone au 418-640-2575 ou par le biais du site sécurisé de Sillon Disquaire à www.sillon.com. Ce tirage est réservé aux membres ayant adhéré au plus tard le 10 septembre. Faites vite!
Ici Raymond Lévesque. Vous écoutez CKRL MF 89,1 à Québec.
Quand les hommes vivront d'amour,
il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Vous êtes à Carnet de guerre en compagnie de Lucien Aymon, en plein cœur de Berlin assiégé, où les restes de la 3e armée essoufflent leur dernier moment. Alors, nous venons d'entendre « Je suis Swing » de Johnny Hess. Une pièce où il nous disait tout simplement comme ça « Je suis gay ». Peut-être gay justement grâce à la fin de la guerre. Juste avant, c'était un reportage du gouvernement américain sur leur travail au Japon. Et la première pièce du bloc, c'était « Bo Diddley, Ain't It Good to Be Free ». N'est-ce pas bien d'être libre? Et nous allons maintenant poursuivre dans cette émission spéciale « Fin de la guerre ». Et d'ailleurs, l'équipe de CKRL tient à vous inviter demain. Il y aura une grande célébration, demain 12 septembre, sur la 3e avenue, en face de nos bureaux. Il y aura un grand spectacle avec Feber E. Coyote, I Know, Webster, Les Hommes de Flores, la Fanfare Niente de la Strada, Melogram et la Tourelle Orchestra. Des jeunes groupes que Gisèle m'a indiqué tout à l'heure que ce sont des groupes de la relève. Sur la 3e avenue, évidemment, c'est gratuit. Alors, nous allons maintenant écouter plus de célébrations, plus de chants en commémoration de cette fin de guerre. Vous écoutez Carnet de guerre.
Mesdames, messieurs, chers amis, vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. Cette phrase gravée sur les planches d'une baraque, quelques instants avant d'affronter le peloton d'exécution, a été écrite par Guy Moquet, 17 ans et demi, fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, Loire-Atlantique. Dans cette période de tension que nous vivons, le message à transmettre est qu'aucune société ne peut vivre sans référence à des droits et des valeurs pour lesquels nos fusillés, nos déportés, nos maquisards ont donné leur vie. Faisons nôtre cette phrase de Lucie Aubrac, « Résister se conjugue au présent ».
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la commune à l'embéton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander,
Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né? C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitija. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes antécédents, moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Mesdames, messieurs, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole en ce haut lieu de la résistance armée que fut le plateau des Glières. Je tiens à rappeler que quelques-uns des rescapés des Glières ont par la suite rejoint le bataillon FTP Moïse Carmagnol à Lyon et que j'ai eu le plaisir de combattre à leur côté. Je me suis engagé en résistance en 1941. Cela fait 69 ans que je milite. Au crépuscule de ma vie, c'est avec une grande fierté que je me penche sur mon passé. Même en le regardant avec un œil critique, non, je n'ai rien à regretter. En toutes circonstances, je me suis toujours trouvé du côté des plus pauvres, des malheureux, des exploités, des anticolonialistes, des antiracistes. En un mot, toujours du bon côté de la barricade. À 84 ans, malgré l'âge, la maladie et la fatigue, et avant que j'aie dû boucler mes valises, comme dit une chanson de Jean Ferrat, je garde encore en moi ce même idéal, cette même flamme, cette même volonté de changer ce monde qui permit à beaucoup de mes camarades de tomber face à l'ennemi en criant « Vive la France, vive la liberté, vive le Parti communiste !» Ils sont tombés animés par un idéal qui permettait à un homme et une femme de se sublimer et de se sublimer à son insu. Ils sont tombés convaincus qu'ils donnaient leur vie pour un monde meilleur. Ils combattaient pour libérer la France, pays de la liberté et des droits de l'homme, la France de la Révolution, la France de la Commune, la France, le seul pays au monde dont les bâtiments publics portent ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ces raisons que nos parents, fuyant les persécutions fascistes de Mussolini, d'Hitler, Franco et consorts, avaient choisi ce pays pour s'y réfugier. Internationalistes, c'est aussi pour ces raisons que sur notre drapeau flottait le drapeau tricolore de Valmy. Drapeau que nous n'avions pas eu à l'époque, la sottise d'abandonner aux pétainistes qui prétendaient usurper la nation, comme aujourd'hui certains l'abandonnent au Front National. Mais pour nombre d'entre nous, héritiers de la Commune, admirateurs de Lénine, de la révolution d'octobre de l'armée rouge qui a écrasé l'armée nazie à Stalingrad, nous arborions aussi le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Nous combattions parce que nous étions certains que nous n'allions pas mourir pour rien, que les survivants seraient portés haut le drapeau de la liberté, de la justice et de la solidarité. Oui, mesdames et messieurs, je suis fier de 52 de mes frères de combat qui, ayant subi d'effroyables tortures, sont morts dans les culs de Basse-Fosse, de la police, de la milice ou de la Gestapo, sans avoir lâché un seul mot à Barbie et à ses sbires. Pour certains, nous n'avons jamais retrouvé leur corps. Oui, je suis fier de ces hommes et de ces femmes qui, pour la défense de leur idéal, ont su supporter l'insupportable. Fier aussi de mon ami Raymond Greenstein, qui, à l'âge de 20 ans, a préféré se faire sauter avec une grenade en entraînant avec lui dans la mort les soldats nazis qui l'entouraient plutôt que de se faire prendre vivant. Fier également de mon camarade Simon Fried, lui aussi âgé de 20 ans, qui, condamné à mort par les tribunaux des sections spéciales, a été exécuté le 4 décembre 1943. Il refusa, en arrivant devant la guillotine, que ses gardiens leur soutiennent en leur disant « Vous allez voir comment c'est mourir un jeune communiste ». Il se présenta tout seul devant la machine à couper les têtes. Au moment précis où le couperet tomba, tous les internés de la prison Saint-Paul à Lyon, debout dans leurs cellules, lui rendirent un vibrant hommage en chantant la Marseillaise et l'Internationale. Il arrive parfois qu'on me reproche d'avoir l'outrecuidance de la part d'un ancien résistant, déjà encombrant en tant que tel, de ne pas me contenter de n'être qu'un ancien résistant. Je suis comme les vieux mulets des Alpes, plus rétif encore en devenant vieux. Il nous faut défendre notre République une et indivisible, défendre notre industrie, nos universités, nos laïcités, et même y compris notre langue, mise à mal par les tenants du tout anglais. Notre devoir est de défendre notre souveraineté nationale et de chasser de notre horizon ces coalitions d'intérêts privés qui menacent notre devenir. Pour défendre tout cela, entrons en résistance, et le temps est venu de démontrer que le peuple français ne sera jamais un peuple d'esclaves. Hommage et respect à tous ceux et à toutes celles qui ont tout sacrifié pour que les survivants soient heureux. Vive la résistance d'hier et que vive la résistance d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Ah oui. Et voilà, la résistance se conjugue au présent. C'était le discours d'un communiste, comme ça, qui racontait son passé de maquisard. C'est actuellement la fin de la guerre. Nous célébrons la fin de la guerre à Carnet de guerre, en votre compagnie, Lucien Aymon. On a entendu aussi François Béranger, qui faisait tranche de vie. François Béranger qui a participé à la guerre d'Algérie et qui est revenu avec des souvenirs assez obscurs de cette époque. C'est une noire époque que plusieurs Français ont dû subir. Alors, voilà, nous célébrons aujourd'hui. Est-ce que la foule est contente?
Oui!
Nous célébrons la fin de la guerre aujourd'hui, enfin. Et nous allons poursuivre avec, tiens, pourquoi pas, un discours de Winston Churchill.
Yesterday morning, at 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command. General Beadle Smith, Chief of Staff of the United States Army, and General François Sévèze signed the document on behalf of the Supreme Commander of the Allied Expeditionary Force. And General Suslo Parov signed on behalf of the Russian High Command. Today, this agreement will be ratified and confirmed at Berlin, where Air Chief Marshal Tedder, Deputy Supreme Commander of the Allied Expeditionary Force, and General de Lattre de Tassigny will sign on behalf of General Eisenhower. General Zhukov will sign on behalf of the Soviet High Command. The German representatives will be Field Marshal Keitel, Chief of the High Command, and the Commanders-in-Chief of the German Army, Navy, and Air Forces. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interests of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded all along the fronts, and our dear Channel Islands are also to be freed today. The Germans are still in places resisting the Russian troops, but should they continue to do so after midnight, they will, of course, deprive themselves of the protection of the laws of war and will be attacked from all quarters by the Allied troops. It is not surprising that on such long fronts and in the existing disorder of the enemy, the commands of the German High Command should not in every case have been obeyed immediately. This does not, in our opinion, with the best military advice at our disposal, constitute any reason for withholding from the nation the facts communicated to us by General Eisenhower of the unconditional surrender already signed at Reims, nor should it prevent us from celebrating today and tomorrow, Wednesday, as Victory in Europe Day. Today, perhaps, we shall think mostly of ourselves. Tomorrow, we shall pay a particular tribute to our heroic Russian comrades whose prowess in the field has been one of the grand contributions to the general victory. The German war is therefore at an end. After years of intense preparation, Germany hurled herself on Poland at the beginning of September 1939. And in pursuance of our guarantee to Poland, and in common with the French Republic, Great Britain, the British Empire, and Commonwealth of Nations, declared war upon this foul aggression. After gallant France had been struck down, we from this island and from our united empire maintained the struggle single-handed for a whole year until we were joined by the military might of Soviet Russia and later by the overwhelming power and resources of the United States of America. Finally, almost the whole world was combined against the evildoers who are now prostrate before us. Our gratitude to all our splendid allies goes forth from all our hearts in this island and throughout the British Empire. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, remains unsubdued. The injuries she has inflicted upon Great Britain, the United States, and other countries, and her detestable cruelties, call for justice and retribution. we must now devote all our strength and resources to the completion of our task, both at home and abroad. Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King!
Dear Canada, I'm writing this letter to thank you for helping the 6 Americans in Iran. I'm not the only one writing you a letter. All my friends are too. Oh yeah, I almost forgot. My name is Shelley. I'm 8 years old. Today, it seems like all Americans are smiling because of what you did. Just when it seemed like we didn't have any friends, there you were. My brother Bill's in the army. He called home and said Canada was a good friend. And in this bad time, we need all our friends. I never visited your country, but maybe someday I will. I've seen pictures of it, and it's beautiful. And I do love hockey. I don't know why that man with the beard doesn't like us, but I'm glad you do. I have to go now because my mom's calling me for dinner and I have homework to do. Well, tonight when I go to bed, I'll pray to God that He will bless you for what you did. P.S. Canada, you have a special place in my heart and my country's heart. Love, Shelley.
Cette soirée vous est présentée par La Barberie.
La Barberie vous propose à chaque troisième dimanche du mois de déguster 4 bières noires de type stout et 4 chocolats pour un prix modique. Curieux, nous sommes allés recueillir des impressions sur place. Vous, madame? Vous, monsieur? Essayons tout le groupe. Renseignez-vous au 52 Bières ou à labarberie.com. Waouh!
Le bal du lézard.
Le bal du lézard, voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les samedis soirs, de la Volca, une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe soit des nachos ou des hot dogs européens, de la musique et des humains. Au bal du lézard.
Abrasif, décapant, intense.
Le bal du lézard, 3e avenue à Limoilou.
CKRL.
Cette ovation pourrait être la vôtre. Première Ovation soutient la relève artistique de Québec en donnant aux artistes les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Que vous soyez artiste ou diffuseur, visitez premièreovation.com pour connaître tous les détails. Première Ovation, parce que la relève a sa place ici.
Tu sais que pour l'immigration...
La Ville de Québec s'est dotée d'une politique sur l'immigration pendant l'été. La Ville de Québec attire des immigrants, mais a du mal à les retenir sur son territoire. Des efforts devront être faits à cet égard.
Saviez-vous que...
Un préjugé veut que les immigrants français s'intègrent facilement au Québec. La réalité n'est pas si rose. Les cousins français aussi ont leur lot de difficultés. L'émission Égalité genre féminin sera de retour pour une 3e saison à compter du jeudi 16 septembre. Tous les jeudis à 9h30, soyez à l'écoute. Cette année, l'émission vous proposera plus de reportages, de chroniques culturelles. L'équipe de l'émission a grandi. Vous aurez l'occasion d'entendre de nouveaux intervenants. Et bien sûr, entrevues et portraits thématiques seront toujours au rendez-vous. Égalité genre féminin avec Sophie Gall, jeudi 16 septembre à 9h30 sur les ondes de CKRL. Cette émission est produite en partenariat avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Allô, 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 allô. Ouais, je m'entends. Tu m'entends-tu? OK, moi aussi, je t'entends. Ben, je t'entends à travers la vitre. En tout cas, non, mais c'est parfait. Garde ça de même. Hey, la job est pas finie, ça. Ah, OK, il y a quelque chose qui attend. OK, c'est bon. Alors, ben, c'est ça. Tu m'entends, là? Ouais, OK. OK, moi aussi, je t'entends. OK. Vous êtes en train d'écouter présentement CKRL 89.1 sur votre bande MF. Oui, c'est la modulation de fréquence. 89.1 CKRL, c'est ça. Puis là, bon, ça fait longtemps, maudit, que je suis pas venu ici. Je n'étais jamais venu, à vrai dire, ici. Mais j'ai déjà été à CKRL dans le temps que c'était à l'Université Laval. Et puis, ben, c'était à peu près comme le... C'était pas le même micro. Je suis sûr que c'était pas le même micro. En tout cas, de toute façon, c'est ça. À bientôt. Moi, c'est René Lucier. Puis, vous écoutez présentement, à l'instant même, le 89.1 CKRL. RL? René Lucier. Hein, ça marche. CKRL 89.1. Bye-bye.
Bonne fin de guerre, tout le monde. C'est la fin de la guerre. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette journée historique. Nous avons entendu un discours d'un ancien maquisard communiste. C'était tiré de la radio de là-bas si j'y suis. Et on a entendu aussi Shelley Loney, Thank You Canada. Comme ça, qui un petit discours pour nous inspirer. Merci Canada. Merci Georges VI. Merci Maurice Duplessis. On a entendu aussi Henri Prieur qui interprétait Le Temps des Cerises et un discours de Winston Churchill. Et maintenant, pour célébrer cette journée très importante, nous allons entendre le ministre fédéral de la Justice, Ernest Lapointe, qui va rappeler les efforts consentis.
De septembre 1939 à septembre 1941, la situation s'est tellement améliorée qu'aujourd'hui, il s'agit moins d'enrayer la défaite que de gagner la guerre d'une façon décisive. Pendant ces deux années de lutte gigantesque, quelle fut la part du Canada? C'est la question que se pose notre conscience et notre valeur. De cette part, un homme d'action et d'énergie qui s'y connaît entre tous, Lord Beaverbrook, a pu dire Possibly it compares for population with any country in the world. Monsieur Winston Churchill lui-même pouvait dire tout récemment au grand déjeuner du Guildhall que la contribution du Canada a permis à la Grande-Bretagne de résister victorieusement à l'attaque. Cette participation canadienne, je voudrais vous dire en peu de mots comment elle s'est faite, grâce à la coopération de toutes les classes de notre population. Tout d'abord, rappelons-nous qu'un facteur nouveau gouverne nécessairement notre effort national. C'est la nouvelle technique de guerre. En 1914, il fallait pour la guerre des tranchées des hommes, encore des hommes et toujours des hommes. Aujourd'hui, pour une guerre de moteurs, il faut de plus des avions et des tanks, encore des tanks et des avions. On peut même dire que le front de bataille s'est étendu de la tranchée à l'usine, avec ce résultat qu'il faut recruter l'armée industrielle aussi promptement et aussi laborieusement que l'armée combattante. Les femmes ont été appelées à faire leur part dans cette préparation gigantesque et partout, elles ont répondu avec enthousiasme et avec succès. Il est de première importance que cette armée industrielle groupe en Canada des contingents aussi nombreux que possible parce que nos usines, plus à l'abri des raids aériens, peuvent continuer de fournir sans interruption le fond indispensable du matériel de guerre. De là aussi, la nécessité de la paix industrielle au Canada. Une usine fermée, c'est une bataille perdue. Et un autre fait non moins essentiel qui détermine encore le caractère de notre participation, c'est que par suite de l'occupation de la Norvège, de la Hollande et du Danemark, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 10 fois plus qu'en 1914 sur le Canada, sur les exportations du Canada. D'où la nécessité de garder à l'agriculture son plein rendement. Enfin, comme c'est la Grande-Bretagne qui livre la bataille décisive, le Canada doit orienter son effort de façon à lui procurer le maximum de l'assistance dont elle a le besoin le plus pressant, c'est-à-dire une double production maximum de vivres et d'armes. Pour atteindre ce résultat, le pays, sous l'impulsion de son patriotisme, n'a pas hésité à révolutionner son économie nationale, réduisant la production des produits usuels. Notre industrie se consacre avant tout à fabriquer du matériel de guerre et partout de nouvelles usines ont surgi. Aujourd'hui, le Canada construit des bateaux, des avions, des moteurs, des camions, des tanks, des canons, des mitrailleuses, des fusils, des explosifs, des munitions et toutes sortes d'autres articles de guerre. De son côté, l'agriculture se spécialise dans la production intensive des articles d'alimentation dont la Grande-Bretagne a besoin. Mais avant tout cela, le Canada, dans un élan de patriotisme et de solidarité, met ses volontaires au service du droit et de la liberté. Il a mis sur pied, entraîné et équipé une armée de près d'un demi-million d'hommes. 3 divisions complètes sont en territoire britannique. Une autre division les rejoindra bientôt avec plusieurs corps techniques spécialisés. 20 000 de nos marins patrouillent les mers. 60 000 aviateurs sont en service en Grande-Bretagne et au Canada. Et déjà, les hommes s'entraînent qui seront prêts à fournir les renforts nécessaires lorsque la grande offensive nous conduira à la victoire finale. À côté de son armée à l'entraînement et de son industrie au travail, la nation entière fait sa part tous les jours avec un patriotisme et un zèle admirable. Ainsi, le citoyen canadien se prive d'articles de luxe, automobile, frigidaire, primeur et même bas de soie. Il supprime les voyages aux États-Unis. Il renonce aux promenades en auto Il retranche de sa table le bacon et le fromage. Il accepte même que le gouvernement réglemente le travail, limite sa liberté, dirige sa vie habituelle. Il fait plus encore. Avec une grande générosité, il donne des millions aux œuvres de guerre, souscrit d'autres millions aux emprunts nationaux, paye en impôts de 20 à 60 de son revenu personnel et dépense pour la guerre 45 du revenu national. Voilà un bref résumé du magnifique effort fourni par notre peuple, hommes et femmes, effort dans lequel la province de Québec a tenu un des premiers rangs, j'en parlerai tout à l'heure, et cet effort, il l'a donné volontairement et généreusement. Cependant, devant la situation du jour, tout meilleure qu'elle soit, il faut se garder comme du pire danger, de tout optimisme exagéré qui affaiblirait notre effort. Il faut se garder d'illusions dangereuses. La guerre ne se gagne ni avec des retraites héroïques comme à Dunkerque et en Grèce, ni avec des raids aériens, si nombreux qu'ils soient. Elle ne se gagnera pas plus seulement avec le blocus maritime, ni avec la magnifique défense de la Russie. Elle ne se gagnera même pas avec l'espoir de l'entrée des États-Unis dans la guerre. On entend parfois dire « le temps est avec nous, le temps est de notre côté ». Mesdames et messieurs, le temps est toujours avec ceux-là. Le temps est toujours du côté de ceux-là qui savent en profiter. La guerre ne peut se gagner que par la défaite de l'armée allemande. Dans cet objectif essentiel, notre part à nous, les civils, à nous, les Canadiens de toute classe, c'est de produire encore plus de vivres, fabriquer encore plus de matériel de guerre qui servira à combattre avec nos soldats, nos marins et nos aviateurs. Pour atteindre notre objectif, il faut que chacun de nous se fasse une mentalité de guerre, c'est-à-dire limite ses besoins au minimum pour pouvoir donner au maximum. Il ne faut gaspiller ni une goutte d'essence, ni une once de viande, ni un sou de monnaie, car c'est cette union de toutes nos ressources et de toutes nos volontés qui nous donnera le droit de marcher la tête haute dans la croisade des peuples pour le triomphe de la liberté, de la religion et de la civilisation. Je désire vous parler maintenant de la participation de notre province à l'effort de guerre. Je n'ai aucune hésitation à le faire. Il y a quelques semaines, dans l'édition canadienne d'un grand périodique américain, un journaliste d'Ottawa me prenait à partie. Parce que, disait-il, je parlais toujours spécialement de Québec, de ma race et de ma province, au sujet de notre contribution à l'effort de guerre, disant que Québec étant une partie du Canada, je ne devais parler que du Canada, sans mention particulière de cette province. Je n'ai pas besoin de dire ici à Québec à quel point l'Union nationale m'est chère. Vous savez tous que je suis Canadien de cœur, d'esprit et d'âme. Mais à cause même de cet ardent désir d'unité, je suis jaloux du bon renom, du prestige et de la réputation de notre petite patrie canadienne-française. Quand ces idées et ces actions sont injustement ou erronément représentées, je crois de mon devoir de rétablir les faits et de la montrer sous son vrai jour. Quand malheureusement elle est attaquée avec ou sans malice, comme elle l'a été parfois, non seulement en ce pays, mais même de l'autre côté de la frontière, je me lève et je continuerai à me lever pour la défendre. Québec a fait, Québec fera son devoir. Son effort de guerre, elle l'a manifesté dans tous les domaines, et il a été soutenu sans faiblir. Les autorités religieuses et politiques de Québec ont donné un exemple que je tiens à souligner. Leur attitude a toujours été franche. Leur concours a toujours été précieux. Elles font leur devoir et plus encore. Les faits et les témoignages sont nombreux sur ce point. Leur loyauté, mes compatriotes l'ont montré d'abord lors de la déclaration de guerre. Plusieurs m'ont demandé alors et ont demandé à d'autres ce que ferait Québec. What will Quebec do? La réponse a été éclatante et le premier régiment à compléter son effectif fut le régiment de Maisonneuve, l'unité canadienne-française. La même question fut posée lorsque la mobilisation générale fut décrétée pour la défense du Canada, à l'entraînement de 30 jours, puis de 4 mois, et ensuite pour la durée de la guerre. Ensuite, quand il s'est agi des deux empreintes de la victoire, on nous demanda encore ce que ferait Québec. Et dans chaque cas, Québec a dépassé l'objectif qui lui avait été assigné. Enfin, la même question se posa avec cette fois plus d'inquiétude. Lorsque le malheur s'abattit sur la France et que l'on vit avec regret les deux grandes alliées se séparer tragiquement. What will Québec do? Qu'est-ce que fera Québec, me demanda-t-on? Québec a répondu cette fois encore d'une façon non équivoque. En premier lieu, nous sommes loyaux sujets de Sa Majesté. Et notre allégeance ne se divise pas et ne se divisera pas, quels que soient les actes à poser et les sacrifices à accepter. En second lieu, c'est l'Angleterre qui défend aujourd'hui la liberté du monde. Et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Fils du Canada depuis 3 siècles, nous sommes exclusivement et simplement Canadiens, des Canadiens de langue française. Fidèles à nos origines, nous avons mis cependant dans les armoiries de notre province ces simples mots qui sont notre devise, je me souviens. Certes, nous nous souvenons dans le présent comme dans le passé que dans nos veines coule un sang français. C'est à cause de cette parenté lointaine que nous avons ressenti plus profondément que tout autre la catastrophe qui s'abattit sur la France l'an dernier. Ce fut pour nous un jour de navrante détresse quand sonna en juin 1940 le glas de la liberté française qui fut aussi un peu le glas de notre fierté. En ce jour funeste, il n'est pas de foyer du Canada français qui n'ait pris dans son cœur un deuil qu'il porte encore. Mais nous ne désespérons pas de l'avenir de la France. La Charte de l'Atlantique vient de faire jaillir dans la nuit de son ciel une immense clarté. Cette déclaration faite à la face du monde par Churchill et Roosevelt s'engage à lui rendre, comme à tous les pays martyrs, les droits qu'on leur a volés, la liberté politique et l'intégrité territoriale. Une France asservie, esclave de Hitler, ne serait plus la France. On ne collabore pas avec une bête féroce. L'esprit de la vraie France, de la France éternelle, de la France qui ne meurt pas, ne peut pas se réfugier chez Hitler en Allemagne. Voilà pourquoi nos hommes et nos femmes sont doublement fiers que leurs fils, en combattant pour le Canada en faveur du droit et de la liberté, combattent en même temps pour la libération de la France. Promise par la Grande-Bretagne et les États-Unis à la face du monde civilisé.
Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen. Fror auch die Welt, uns war warm, uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm.
Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht, gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt
die Partei, die Partei, die Partei.
Sie hat uns niemals geschmeichelt, sank uns im Kampfe auch mal der Mut,
hat sie uns leis nur gestreichelt. Sagt nicht und gleich war uns gut. Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde, wenn uns das Gute gelingt? Wenn man den Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden erzwingt.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt.
Die Partei, die Partei, die Partei.
Sie hat uns alles gegeben. Ziegel zum Bau und den großen Plan. Sie sprach, meistert das Leben. Vorwärts, Genossen, packt an. Hetzen jenen zum Kriege. Bricht euer Bau ihre Macht. Zimmert das Haus und die Wiege. Bauleute, seid auf der Wacht.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt.
Die Partei, die Partei, die Partei!
All right, Mr. Scientist, would you tell us a little bit about the explosion of a hydrogen bomb? First of all, there's a tremendous mushrooming effect. 1900 years ago, Peter said, the heavens pass away with the blast, the noise thereof. Secondly, as it comes in a downward direction, it disintegrates, dissolves, melts everything, even steel. A 500-foot steel tower in New Mexico melted to the ground so that they found nothing. Now I want you to get this. Peter said, the elements shall melt with fervent heat. If you go to the library tomorrow and say to the librarian, I want to study the hydrogen bomb, she'd say, sir, follow me. Letter E, word elements. Did you know that in your libraries around America, the atom bomb is classified under elements? What'd you say, Peter? The elements shall melt. Brother, God gave Peter the exact word 1900 years ago. This is God's word, friend. Don't let anyone fool you.
Country from the red. There's soldiers all around me who are here to safeguard our loved ones who sleep peacefully in bed. It's got to be done to stop the commies where they are. Our all of us will live with that menacing red star. Where they are all of us will live.
Et voilà, c'était les Lonesome Valley Singers. It's got to be done. Et oui, nous devons nous protéger contre la menace rouge. Juste avant, c'était The Coming War with Russia. Et Ernst Busch, l'aide der Partei. Le parti a toujours raison. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été là. François Gécouillard, finalement, qui était là tout ce temps-là. Ce n'était pas vraiment Lucien Aymon. Et ben, voilà, peut-être pour l'été prochain, peut-être un autre tour à la radio, qui sait, à CKRL. Merci d'avoir été là. Et on se laisse, évidemment, ça va être l'excellente émission absolument folle de Errance Rénaldienne. Alors, on reste bien branchés.
Cette soirée vous est présentée par La Barberie.
La Barberie.
Wow.
Brasserie coopérative de travail aime son milieu. Elle est fière de soutenir l'économie sociale, les projets communautaires et les radios locales. Elle est aussi fière de vous accueillir dans son salon de dégustation où un choix de 17 bières à la pompe vous attend. La Barberie, c'est aussi des bières en bouteille, au goût riche et au son unique. Que vous soyez seul, en couple ou entre amis. La Barberie, 310 Saint-Roch, ou à la barberie.com.